Chili, années 1970-80, le général Pinochet a établi un régime de terreur fondé sur les arrestations arbitraires et la torture. Un jeune catholique américain, William Cavanaugh, observe sur place le rapport entre la communion eucharistique dans les paroisses et la résistance grandissante des chrétiens à la torture. De retour aux États-Unis, Cavanaugh publie à partir de ses observations « Torture et Eucharistie », livre choc qui vient d'être traduit et publié en français. Pour nous aider à comprendre comment l'Eucharistie aide à résister à toute forme de violence et d'individualisme, nous avons interrogé l'une des traductrices de l'ouvrage, Cécile Rastoin, sœur Cécile de Jésus Alliance du Carmel de Montmartre à Paris.
C'est vraiment le résultat de son expérience pratique de 2 ans de coopération dans le Chili de Pinochet, dans les bidonvilles de Santiago, où il a été justement confronté à la torture et à ce qu'infligeait à la société et à l'Église la pratique généralisée de la torture. Il place justement l'Eucharistie en vis-à-vis comme un moyen de résistance de l'Église face à la décomposition de la société qui se déroulait sous ses yeux, à l'atomisation de la société.
Mais pourtant, on a l'impression parfois que la hiérarchie catholique a plutôt collaboré avec le régime de Pinochet.
C'est vrai, au début, il y a eu collaboration. L'Église a été sensible au discours de Pinochet, appelant à la lutte contre le communisme et à l'établissement d'un régime chrétien, ce qui était apparemment le but. Et ensuite, progressivement, voyant la violence qu'exerçait ce pouvoir et voyant se généraliser la pratique de la torture, l'Église, justement, a senti que torturer le corps de personnes humaines, c'était s'en prendre au corps du Christ. Et donc, elle a revu ses positions et progressivement adopté une position de résistance de plus en plus forte, de la base jusqu'à la hiérarchie. Et c'est justement la prise de conscience de l'Eucharistie comme mode de vie et comme capacité de résistance de l'Église que Cavanaugh a vraiment perçu pendant son temps de coopération au Chili et qu'ensuite il a mis en mots dans sa thèse « Torture et Eucharistie ».
Mais ça veut dire que c'est lors des célébrations eucharistiques ou éventuellement de l'adoration eucharistique que les communautés, les chrétiens individuels aussi, ont pris conscience de leurs devoirs vis-à-vis du régime ?
Je ne sais pas si on peut dire exactement ça. En fait, je crois que ce que Cavanaugh a l'air de dire, c'est que c'était vraiment le fond de la foi chrétienne. Donc justement, il essaye d'éviter tout dualisme en disant d'ailleurs d'une façon assez crue, l'Eucharistie n'est pas un moment cultuel, ce n'est pas un culte, mais c'est vraiment un mode de vie. Donc il plaide pour un grand réalisme eucharistique, à la suite de Henri de Lubac, d'ailleurs, dont il suit la pensée sur ce point, pour dire que justement, la foi chrétienne tient ensemble toutes les réalités, refuse tout dualisme entre le corps et l'âme, entre le temporel et le spirituel. L'Église doit avoir une pratique eucharistique, c'est-à-dire sentir que l'Église en elle-même, chacun est membre du corps du Christ, et donc, comme le dit saint Paul, s'attaquer à un membre ou torturer un membre, c'est torturer le corps du Christ, c'est s'en prendre au corps du Christ. Donc c'est plus encore qu'une pratique d'adoration eucharistique ou une pratique de dévotion, c'est vraiment le sentiment de faire corps. Donc il reprend la phrase célèbre du père de Lubac, l'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie, pour dire que j'ai cette conscience d'être le corps du Christ, au sens non seulement sacramentel mais justement ecclésial, qui a été progressivement la source de la prise de conscience des chrétiens chiliens et qui doit être évidemment la prise de conscience de tous les chrétiens dans toute société moderne, selon ses dires. Ça va bien au-delà du cadre chilien, évidemment.
Alors comment est-ce que l'exemple du Chili pourrait nous éclairer aujourd'hui, soit qu'on vive en Occident ou alors qu'on vive dans des pays qui pratiquent malheureusement encore la torture ?
La facette trop accentuée peut-être, c'est à l'heure actuelle, dans un sens d'une manière assez mondialisée maintenant, un individualisme assez exacerbé et une fragmentation des corps sociaux. Donc le modèle d'un individu citoyen qui est en lien à peu près constant et exclusif avec l'État, un État qui va gérer les débuts de la vie, les fins de vie, tous les aspects moraux de la vie de l'individu. Et puis, l'Église étant rentrée dans ce modèle de séparation du temporel et du spirituel, qui avait son bon côté, s'est peut-être laissée embourber dans un dualisme trop fort et a été comme reléguée dans la sphère du privé, donc avec une présence de l'Église qui n'est plus qu'une vague inspiration chrétienne ou un ensemble de valeurs qui est présent dans des individus qui eux-mêmes agissent dans la sphère publique et dans la société. Mais l'accent n'est plus mis sur l'Église comme corps du Christ au sens le plus concret du terme. c'est-à-dire vraiment une solidarité effective des membres avec ce qu'il appelle une économie de communion, des rapports fraternels avec tout autre, qu'il soit croyant ou membre du corps du Christ, ou comme il le dit, membre potentiel du corps du Christ.
Alors comment est-ce que les fidèles pourraient exercer leur sacerdoce commun et puis les prêtres leur sacerdoce ministériel pour être au service de cette vie de communion dans la société ?
D'abord, considérer, j'allais dire, l'Eucharistie non pas comme un objet de consommation, qu'on a le droit de consommer ou qu'on peut réclamer consommer, mais d'abord comme une connexion au Christ ressuscité, un don du Christ, mais qui est en même temps exigence, l'acceptation, c'est entrer dans l'offrande du Christ, l'acceptation de se donner en offrande comme le Christ. L'Eucharistie est comme l'irruption en nous du royaume de Dieu, une transformation de notre mentalité, où nous ne voyons plus comme nous notre profit, notre consommation individuelle étant le centre, mais c'est au contraire de se voir comme membre d'un unique corps, le corps du Christ, avec tout un renversement de toutes les valeurs, une communion à mettre en œuvre. Donc au niveau très pratique, par exemple, il parle des paroisses, l'accueil dans les paroisses, c'est pas uniquement participer à l'Eucharistie, faire ses dévotions individuelles et puis repartir chacun de son côté, c'est aussi arriver à faire du lien au niveau des repas communs, que la personne qui est seule ou qui n'a pas de repas ne se retrouve pas isolé. Donc il y a un niveau très pratique où il dit laisser une personne seule, sans lien, repartir avec l'Eucharistie, c'est ne pas discerner le corps du Christ. C'est avoir mangé sa propre condamnation. Donc c'est des paroles très dures de Saint Jean Chrysostome, mais qui sont faites pour nous réveiller et pour montrer que justement l'Église est une communion concrète de personnes, pas seulement une communion des âmes.
Mais quand le Christ lui-même institue l'Eucharistie, ce dont on commence à faire mémoire en ces fêtes pascales, il y a un lien très fort finalement entre ce qu'il institue lui-même le jeudi saint et puis la torture qu'il va vivre le lendemain, le vendredi saint.
Exactement. Et c'est ce que dit William Cavanaugh à la fin de son livre d'une manière très forte entre torture et Eucharistie. L'Eucharistie est le don du corps torturé du Christ, certes ressuscité, mais d'abord du corps torturé, c'est-à-dire de l'offrande allant jusqu'au bout. Il nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. D'une certaine façon, l'Eucharistie scelle l'union indissoluble entre ce qui est corps et ce qui est âme. La foi chrétienne veut tenir ensemble toutes les réalités et refuser justement tout dualisme qui en fait n'est pas seulement une erreur théologique, mais induit une vie qui ne tient pas tous les éléments ensemble. Donc j'allais dire, l'Eucharistie scelle au contraire l'unité du matériel et du spirituel.